Viešme dál v socializmus a demokracii.
Vážení priatelia, napriek streľbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci...
Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС...
La guerre de Corée se poursuit sous la conduite du général Volcker et du général Dean, héros des combats de Tel Aviv.
...defense of our own security and of the entire Western Hemisphere...
Let me ask you one simple question. Do you placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no?
La fabrique de la guerre froide. Du 18 au 24 avril 1955, l'Asie et l'Afrique se rassemblent en Indonésie pour le premier sommet des États du tiers-monde. 29 pays sont représentés à Bandung pour envisager une place au sein de ce monde bipolaire dominé par les deux blocs soviétiques et américains.
At the Asian-African Conference, in another surprising development, Communist China's Zhou Enlai proposes, then all but rejects, talks on the Formosa crisis. 29 nations, with a population of more than 1.4 billion persons, attend the historic conference in Indonesia's capital city of Bandung. Premier Nasser heads the Egyptian group.
Ça a été un choc international, une fascination internationale, une première conférence sans les grands.
Pierre Grosseur.
Même c'est la première fois où les Chinois communistes, sont dans une grande conférence internationale sans les Soviétiques. Les Soviétiques avaient souhaité à un moment y participer, ils avaient même pensé envoyer un Ouzbek pour faire asiatique, mais on leur a dit non. Et donc ça a eu une résonance internationale, qui est encore une résonance internationale aujourd'hui, puisqu'on a l'impression que c'est la première fois où les pays du Sud font des relations Sud-Sud, par rapport soit à l'Est-Ouest, soit au Nord-Sud, qui était ce qu'on commençait à... analysé, puisque en 1952, pour la première fois, on a commencé à parler de tiers-monde.
Donc il s'agissait d'extraire ces pays qui n'étaient pas directement sous la coupe des deux grands pour les rassembler véritablement déjà dans une troisième voie possible dans l'organisation de ce monde.
Alors on parlait effectivement en partie de troisième voie, surtout en termes de développement économique. L'idée c'était que la guerre froide est une affaire entre les deux grands, entre les Américains et les Soviétiques, et surtout éviter d'être entraîné dans des guerres, et donc notamment pendant les deux guerres en Corée et en Indochine. La Chine est en pleine offensive de charme. Alors Mao évidemment ne perd pas son objectif révolutionnaire, mais elle est en grande offensive de charme et elle a l'impression qu'elle est en train de se faire encercler par les Américains avec tous les traités qui ont eu lieu au début des années 50, les traités américains avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec Taïwan, etc. Évidemment, renforcement de leur présence aux Philippines, en Thaïlande, etc. etc. Et donc, pour finalement contrer cet isolement et au contraire, finalement, mettre de côté les États-Unis, on donne une image beaucoup plus positive. C'est-à-dire, il y a eu une grande offensive de charme à l'égard des pays asiatiques, mais une offensive de charme aussi à l'égard d'un certain nombre de pays qu'on appelait à l'époque de la zone intermédiaire. En tout cas, c'est les Chinois les appelaient comme ça. C'est-à-dire, par exemple, les Français, les Britanniques, notamment dans le domaine commercial. Alors, c'est assez modéré, mais on essaye finalement de faire cette offensive de charme. Et notamment, une des choses qui est intéressante, c'est que les Chinois, à ce moment-là, conseillent plutôt aux Nord-Vietnamiens de se concentrer sur la constitution d'un État nord-vietnamien plutôt que d'essayer de reconquérir le Sud.
Et d'où vient cette idée d'organiser ce sommet, cette conférence de Bandung avec les Africains? Donc là, on sort de cette conférence de pays asiatiques pour effectivement, comme vous le disiez, Pierre Grosseur, organiser une rencontre Sud-Sud entre l'Asie et l'Afrique.
Alors l'idée, c'est qu'évidemment, tous ces États sont des anciens pays colonisés et que l'on est encore dans une période de décolonisation, avec des combats à un certain nombre d'endroits, comme en Algérie, on le sait bien. On est en pleine indépendance africaine, c'est le début de l'indépendance aussi pour le Gold Coast, le Ghana. Et donc, il y a vraiment cette ambition-là. Et puis, il y a autre chose qui, d'ailleurs, a été un des éléments qui limite cette vision d'un Sud uni, c'est que du côté des pays asiatiques qui ont été les premiers, finalement, à devenir indépendants, il y a une sorte... on va dire le mot, de paternalisme à l'égard des Africains, en disant vous n'êtes pas encore tout à fait mûr pour être indépendant, mais on va vous aider petit à petit à devenir indépendant et on va vous montrer comment, en gros, on peut se développer économiquement différemment que des modèles américains et soviétiques, même si les Indiens puisent dans le modèle américain et dans le modèle soviétique. Et puis, il y a un élément de contexte important, c'est que le tiers-monde devient un vrai enjeu de relations internationales. Tout est finalement fixé en Europe au milieu des années 55 avec l'entrée de la RFA dans l'OTAN et la constitution du pacte de Varsovie. Et donc le nouvel enjeu, c'est le tiers-monde. Finalement, on s'était beaucoup inquiété dans les pays occidentaux de ce qui pourrait se passer, c'est-à-dire du neutralisme d'un côté et d'autre part de l'anticolonialisme. Et en fait, on est très rassuré parce que les déclarations anticolonialistes sont finalement relativement modérées. Finalement, il y a des attaques contre le colonialisme rouge, notamment de la part du délégué philippin, et on sait aujourd'hui que c'est pas les Américains qui ont poussé le délégué philippin à attaquer, le fait que les Soviétiques, dans les pays baltes, en Ukraine, voire en Asie centrale, eh bien, étaient aussi des colonisateurs. Et donc, quand on parlait d'anticolonialisme, il fallait pointer du doigt l'Union soviétique. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les Américains aux Nations unies, depuis 1953, mettent en avant ce discours sur le colonialisme rouge. Et après, à la fin des années 50, ce sont les Canadiens qui reprendront très souvent ce type de discours. Donc, on s'en sort plutôt bien par rapport, encore une fois, aux angoisses. L'angoisse traditionnelle hein, des Occidentaux, et que ce soit les Français, les Britanniques, les Américains, c'est de se faire virer d'Asie. Et donc là, on s'aperçoit que finalement, ça ne se passe pas du tout de cette manière-là et que les déclarations, encore une fois, sont relativement modérées. Ce qui fait que cette inquiétude va rester encore dans les débuts des années 60. On est rassuré aussi parce qu'il n'y a pas d'institutionnalisation. Il n'y a pas une institution, il n'y a pas une organisation qui est créée. D'ailleurs, Nehru n'en voulait absolument pas. Et puis aussi, autre chose importante, c'est que on a eu cette inquiétude encore une fois parce qu'il a failli y avoir une deuxième conférence de Bandung qui devait avoir lieu en Algérie en 1965. Et en fait, entre 55 et 65, le Sud éclate complètement. Vous avez des rivalités Inde-Chine. Et même une guerre en 62 en plein milieu de la crise de Cuba. Donc une rivalité Inde-Chine. Vous avez des rivalités aussi à l'intérieur de l'Afrique entre le Ghana et l'Algérie et l'Égypte. Tout le monde voulant être leader finalement en Afrique. Et donc ça se passe très très mal cette mise en place. Plus la rivalité évidemment sino-soviétique qui se développe à ce moment-là. Et au moment où devait avoir lieu cette conférence qui aurait été assez bancale, coup d'État en Algérie, Ben Bella est renversé par Boumédienne et donc elle n'a jamais eu lieu, jamais eu de second Bandung.